Jésus était souvent accusé par les scribes et les pharisiens de prendre ses repas avec les pécheurs. Mais il avait aussi, parmi ses premiers, des sympathisants chez lesquels il aimait prendre un repas. Tel est le cas de la scène rapportée aujourd'hui à l'occasion d'un repas chez un notable pharisien resté pour nous anonyme. Jésus ne peut se comporter comme un simple convive. Il va en profiter pour donner un enseignement spirituel. Le premier est adressé aux autres invités. Il porte sur l'humilité. Le second concerne l'hôte de Jésus. Il évoquera l'importance de la gratuité. Tout d'abord, l'appel à l'humilité. Aux invités qui se pressent vers les premières places, Jésus adresse un appel à la modestie, à l'humilité. Ne va pas t'installer à la première place. Autrement, c'est là, apparemment, c'est là un conseil de bonne éducation, de savoir-vivre. Le maître se situe dans la ligne des sages d'Israël. Nous lisons par exemple dans le livre des Proverbes. Ne cherche pas à briller devant le roi. Ne te mets pas à la place des grands. Mieux vaut que l'on te dise « monte ici » plutôt que d'être rabaissé devant un prince. Et Sirach le sage nous a dit dans la première lecture de ce jour « plus tu es grand, plus il faut t'abaisser, tu trouveras grâce devant le Seigneur. » Saint Luc nous dit que ce propos évangélique est une parabole, c'est-à-dire un trait de la vie courante, porteur d'un enseignement sur le royaume, sur un comportement de vie chrétienne. Il ne s'agit pas seulement de modestie qui évite la honte et facilite un honneur aux gens des yeux, aux yeux de tous, mais d'une attitude foncière du cœur qui s'appelle l'humilité. Sans vouloir détailler tous les degrés d'humilité, comme le fait saint Benoît dans la règle des moines, observons trois piliers fondamentaux de cette vertu. Ils sont observés par Jésus, qui a pu se déclarer doux et humble de cœur. L'humilité chrétienne suppose d'abord un sentiment profond de dépendance vis-à-vis de Dieu. Il nous a créés, comblés de grâce. Tout ce que nous sommes, tout ce que nous pouvons faire vient de lui. Saint Jacques nous dit dans son épître, « Tout don vient d'en haut et descend du Père des Lumières. C'est dans son libre vouloir qu'il nous a engendrés. » Le drame de nos sociétés est souvent l'ignorance totale de Dieu, de son absolu, de la nécessité de se conformer à son plan d'amour pour réunir sa vie. On appelle cela la neutralité ou la laïcité, mais nous ne pouvons pas nous en contenter. Les saints ont compris cette nécessité de la dépendance à l'exemple de Jésus, qui souligne que sa vie et ses paroles n'ont de valeur qu'en référence à son Père des cieux. L'humilité chrétienne est aussi l'acceptation et l'admiration des qualités des autres, sans l'ombre de la jalousie. Ne pas se comparer aux autres, sinon pour constater que nous leur sommes inférieurs en bien des points, que notre regard sur eux soit bienveillant et constructif. Un troisième point doit être évoqué, le risque de la fausse humilité. Car la vraie humilité est vérité sur soi, se considérer en tout comme le dernier des derniers, incapable de faire quoi que ce soit de bien, serait un mépris des dons reçus de Dieu. Sans doute, il faut refuser tout esprit d'ambition humaine, disons d'arrivisme. Mais il faut prendre prendre conscience de ses propres dons et pour en faire profiter les autres. Tous n'ont pas les mêmes charismes, mais chacun en a qu'il doit savoir mettre au service de ses frères. Saint Paul dit aux Corinthiens, à qui la reçoit, la manifestation de l'Esprit est donnée en vue du bien commun. Il arrive que certains chrétiens auxquels on demande un service ou un engagement refusent en se disant incapables. Cela peut être vrai, mais il arrive aussi que cette réaction masque un refus de servir. Soyons généreux et désirons de nous donner, car si on nous demande quelque chose, quelque service, c'est que l'on considère que nous sommes capables de le rendre. La gratuité maintenant, la fin de notre thèse porte sur la gratuité du service que nous pouvons rendre à nos frères. Cet appel s'adresse à l'hôte de Jésus. Quand tu donnes un déjeuner ou un dîner, n'invite pas tes amis, tes frères, tes parents. Il est clair que Jésus n'interdit pas les joyeuses réunions familiales et amicales. Il demande que l'on n'oublie pas les pauvres, les abandonnés. L'antithèse porte sur la gratuité. Les amis seront sensibles à rendre l'invitation. Ce serait pour toi un don en retour. Les pauvres, les infirmes peuvent rendre l'invitation. Ils n'ont rien à te donner en retour. Cette invitation faite dans la gratuité est source de bonheur. Heureux seras-tu, cela te sera rendu à la résurrection. Disons que ce bonheur est déjà présent sur cette terre. C'est la joie du don gratuit, exprimée dans cette sentence de Jésus, « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. » Ouvrir son cœur pour donner, c'est ce que font les disciples de Jésus. Nous pensons à tous ceux qui s'emploient à soulager les souffrances autour d'eux ou dans les pays lointains. Nous pensons à toutes les formes de bénévolat, aux engagements gratuits, au service de l'Église ou du monde qui souffre et a besoin de nous. En fait, les deux enseignements de cette page d'Évangile se rejoignent, humilité et charité gratuite, car un cœur humble est disponible pour aimer et pour servir. Là est la vraie richesse. Le lien entre ces deux attitudes spirituelles est souligné par un moine byzantin du XIe siècle, Nicétas. L'humilité, dit-il, est le commencement extrême de la chaîne des vertus en bas. Et la charité, quand elle est parfaite, y est à tous les degrés. C'est le point extrême en haut. Alors, chers frères, soyons humbles et généreux par amour de Jésus et dans la confiance. Amen.